Quelle est la différence entre une conversion à quelque chose et un simple changement d'attitude, par exemple?
Dans le fond, c'est la même chose. On passe du changement d'attitude à la conversion par un phénomène d'intensité. C'est l'intensité du changement d'attitude qui va faire en sorte que ce changement d'attitude va être défini comme une conversion. Par exemple, un enfant qui se met tout le temps les doigts dans le nez, si on lui dit de changer d'attitude et d'utiliser un mouchoir, on ne va pas dire ensuite qu'il s'est converti au mouchoir. C'est évident, il a juste changé d'attitude. Il dit « merci monsieur », alors qu'avant il disait pas « merci monsieur », il n'était pas poli. On parle pas de conversion, on parle de changement d'attitude, de progrès dans la prise de conscience du rapport avec les autres. Maintenant, quelqu'un qui vole depuis son enfance et qui a fini par braquer des banques, à avoir une vie de criminel, et puis qui, à l'âge de 40 ans, va en prison, passe plusieurs années en prison et change complètement d'attitude, se met à avoir une vie morale, à avoir une remise en question absolument totale sur son histoire, ce qu'il a vécu, ce qu'il a fait. L'intensité du changement peut devenir telle qu'on peut pratiquement parler de conversion. C'est-à-dire qu'on a affaire à quelqu'un qui était une sorte d'animal, qui devient un homme, qui se convertit à l'homme par une prise de conscience.
Mais il n'y a pas une différence entre un changement d'habitude, comme avec ton exemple de l'enfant qui utilise un mouchoir. Il n'y a pas de changement intérieur, il y a juste prise d'une nouvelle habitude. Tandis que le criminel qui se met à avoir une vie morale, ce dernier est passé par un changement intérieur, par une modification de sa façon de voir les choses.
On peut prendre un autre exemple. Dans un rapport de couple, il peut y avoir des changements d'attitude dans la relation de l'homme avec la femme et de la femme avec l'homme. Avec la prise de conscience de l'un ou de l'autre sur un défaut, sur quelque chose qui blesse l'autre et qui va l'entraîner, cette prise de conscience, à changer d'attitude. C'est bien un changement intérieur, mais évidemment, quand on parle de politesse, de regarder à gauche et à droite avant de traverser la rue, un enfant, il regarde pas à gauche et à droite, il n'a pas conscience du danger de la voiture. Et on lui apprend à prendre conscience du danger de la voiture. Il y a bien un changement intérieur quelque part, il y a bien une prise de conscience du danger. Et ce danger, c'est une prise de conscience intérieure. Il observe la réalité autrement.
Entre les deux exemples que tu as donnés, l'enfant qui arrête de se mettre les doigts dans le nez pour utiliser un mouchoir et le criminel qui change de vie, on a d'un côté un changement d'habitude totalement superficiel et de l'autre un retournement intérieur, une transformation intérieure. Nul besoin de transformation intérieure pour prendre une nouvelle habitude, fût-elle un peu plus hygiénique.
C'est pourquoi je parle d'intensité. Quand je parle d'intensité, je parle d'une chose qui est dite à l'individu de l'extérieur, c'est l'intensité la plus douce, la plus faible, vers l'intérieur, qui est l'intensité la plus forte, parce que si quelque chose t'est dit de l'intérieur, elle t'est dit directement, sans passer par un média. Si elle t'est dite de l'extérieur, elle passe par un média. Alors ça, c'est extrêmement biblique en plus. Lorsqu'ils sont au pied du Sinaï, les Hébreux, la montagne, elle tremble, les éclairs, ils foudroient la montagne, il y a de la fumée qui sort, c'est la peur, c'est la crainte. Spinoza reprend de toute façon cette idée en parlant de maturité. Pour lui, la maturité, c'est quand la prise de conscience et la crainte, elle ne vient plus de l'extérieur, par un média, c'est-à-dire par un prophète qui va hurler, qui va menacer, qui va vitupérer et remettre en question l'autre, ou un parent qui va donner un coup de baguette sur les doigts de l'enfant parce qu'il s'est mouché par terre, et lui faire peur par la menace, lui dire « la prochaine fois, je te punis ». Ça, c'est une menace extérieure. Eh bien, pour Spinoza, quand l'homme a atteint la maturité, il n'a plus besoin de cette menace extérieure, il a un amour intellectuel avec la vérité. Il a une prise de conscience intérieure, et sa conscience lui suffit pour lui dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. C'est ça l'intensité. Le changement d'attitude dans nos vies peut être un changement d'attitude très faible, parce que c'est pas quelque chose de grave ou d'important, mais plus la chose est grave et plus c'est important, plus on va avoir recours à la nécessité de parler à l'homme de l'intériorité. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin seulement de changer de manière d'être, de comportement, je dirais social, mais il a besoin de changer intérieurement dans les valeurs mêmes du bien et du mal qu'il définit. C'est ça l'intensité du changement. Nous, on appelle ça une conversion.
Mm-hmm.
Quand l'intensité est très élevée et qu'un criminel devient tout d'un coup un être moral qui va se mettre à travailler, fonder une famille, on appelle ça une conversion.
Mais qu'en est-il de la conversion à Dieu ?
Et c'est ça le problème, c'est qu'on a transféré, comme on fait tout le temps, ce phénomène de la conversion, c'est-à-dire du changement d'attitude, du fait de passer de l'animal, en quelque sorte, à l'animal intelligent. C'est-à-dire de devenir un homme,
oui.
Un homme social, un homo sapiens, qui a une sagesse, qui comprend sa liberté, qui comprend le rapport à l'autre, la liberté de l'autre, et qui construit du rapport social. Donc il n'est plus un animal, il ne se mouche plus par terre devant tout le monde, il ne vole pas son prochain, et il se comporte correctement dans son couple. Donc ce changement de comportement dans l'histoire de l'humanité, c'est un changement de comportement qui est énorme, puisqu'on voit que l'homme... Il rentre dans la domestication.
Mmh.
Il devient un homme domestiqué. Un lion, c'est pas un chat. Et pourtant, c'est un félin. Le lion, c'est un animal sauvage. Le chat, c'est un animal domestique. En termes religieux, la différence entre un animal, c'est-à-dire un homme barbare qui n'a pas eu ses prises de conscience extérieures et intérieures, ses menaces extérieures et ses prises de conscience intérieures, ça reste un barbare, mais lorsqu'il a ces changements d'attitude, lorsqu'il vit ces phénomènes de conversion, on va l'appeler une brebis. Et il va rentrer dans une bergerie. Une bergerie qui prêche une idéologie sociale, morale. Il devient un homme. Et là, on parle de conversion. Et on a transféré ce phénomène, qui est un phénomène humain, tout humain, dirait Nietzsche, vers Dieu. Et on croit que Dieu a exactement le même rapport avec l'homme. Or, Dieu ne parle pas de conversion. Dieu parle de naissance. Et on est tout à fait là, dans un autre registre, quand on parle de naissance.
Quelles sont les preuves, quels sont les signes d'une naissance chrétienne ?
Alors, il y a une parole qu'on trouve dans le Talmud, et je crois qu'on la trouve aussi chez Platon, enfin, je ne sais plus exactement, où il est dit que la femme enceinte, c'est un tombeau, parce que la naissance, c'est une mise à mort. Quelle mise à mort ? C'est-à-dire que l'enfant... En tant qu'embryon, il meurt à sa vie embryonnaire. La vie embryonnaire, c'est la vie d'absolue dépendance. Tu vis dans le liquide amniotique et dans le ventre de ta maman, et tu es nourri par elle. Quand tu sors, tu meurs à cette vie, tu respires toi-même et tu te nourris toi-même. Je parle d'un point de vue physique. Tu n'as plus de cordon ombilical pour te nourrir, et tu respires avec tes propres poumons. Donc c'est une mise à mort, la naissance. Alors qu'est-ce que la naissance spirituelle ? C'est aussi une mise à mort. Dans l'absolu, la naissance spirituelle, c'est la résurrection. Et ici-bas, il y a une préparation à cette naissance. Ça s'appelle la gestation. Et dans la gestation, il y a déjà ceux qui sont en train de naître, d'une certaine manière. C'est-à-dire que la naissance spirituelle, elle dure toute la vie. Et toute la vie, on est en train d'ouvrir la matrice. Et ceux qui ouvrent la matrice, on appelle ça des convertis. Mais en fait, ils ouvrent la matrice vers la résurrection toute leur vie.
Y a-t-il des preuves de cette action, d'ouverture de la matrice ?
Il n'y a pas de preuves.
Signes, je veux dire.
Non, il n'y en a pas. Et en rechercher, ce serait dangereux, parce que on pourrait à ce moment-là discriminer les uns des autres, faire des séparations et accuser. Bon, la parabole en parle bien, c'est pas possible. C'est au moment de la résurrection que la chose se fait, parce que, justement... Il suffit de faire semblant, c'est-à-dire de jouer l'idée de conversion, l'idée de transformation intellectuelle, morale, la transformation par une prise de conscience puissante et intérieure qui va faire en sorte qu'un criminel devient, il peut devenir un prêtre, ni plus ni moins. Il y a maints exemples dans l'histoire de gens qui avaient une vie complètement dévergondée et qui sont devenus des êtres moraux, même athées, mais très morales. Et à ce moment-là, ces gens-là vont parler de conversion. Mais il n'y a pas une naissance spirituelle.
D'accord.
Il n'y a pas un rapport avec Dieu qui fait que je considère la rencontre que j'ai faite avec Dieu comme une mise à mort et non pas comme la marche vers un progrès intellectuel, moral. Ce n'est pas un progrès. C'est une rencontre, finalement, avec la mort et la résurrection. C'est-à-dire que dans la conversion, je passe de l'animal à l'animal intelligent. On appelle ça l'homo sapiens. Dans la naissance spirituelle, je passe de cet homo sapiens, de cet homme, au fils de l'homme. Et le fils de l'homme, c'est quelqu'un qui a une nature divine. Et ce passage de l'homme au fils de l'homme, c'est un passage qui n'est pas biologique, qui n'est pas raisonnable, qui n'est pas intellectuellement possible dans un cheminement de progrès et de prise de conscience par la raison. C'est un changement au sein duquel la raison n'a plus d'intervention. La raison, elle a fait son boulot quand elle a conduit un homme à devenir un homme, à quitter le monde du barbare, de celui qui n'a conscience de rien, qui se remet jamais en question, qui a jamais tort, qui prend sauvagement. Lorsqu'il est devenu un homme, le plus moral qu'il puisse être, la raison a fini son boulot. Après, le cheminement qui va t'amener vers le fils de l'homme, c'est un bond, c'est un saut, comme dirait Kierkegaard, ou comme dirait même Hegel, parce qu'Hegel parle du saut aussi. C'est un impossible. Et ça s'appelle la naissance spirituelle. Cet impossible, cette préparation vers ce bond, vers ce saut, cette marque qui va faire en sorte que sur toi-même, dans ton intériorité, dans ton être invisible, il y a cette marque qui te donne la possibilité, de la part de Dieu, de faire un jour ce bond, de rentrer dans la résurrection. C'est une marque qui est invisible, et c'est une marque que finalement tu forges toute ta vie dans une nouvelle naissance qui dure toute ta vie. Dans ce cheminement de nouvelle naissance, il peut y avoir des moments très forts, des moments qu'on peut assimiler à une sorte de révélation. Mais ça ne suffit pas. Tu peux avoir une révélation à un moment donné, et puis vivre sur cette révélation pendant 3 ans, et tout abandonner. Ça veut dire que cette révélation qui t'a été donnée et qui t'ouvrait la porte vers une nouvelle naissance, tu deviens un avorton, tu l'abandonnes. Mm-hmm. Tu l'abandonnes, mais pendant 3 ans, tu peux montrer les signes.
D'accord.
Qui peuvent être les mêmes que l'autre, qui lui n'abandonnera pas 50 ans après.
Mm-hmm.
C'est-à-dire qu'il y a, dans le texte biblique, il y a cette fameuse parole qui a été beaucoup utilisée à l'époque de la Réforme, c'est la persévérance.
Des saints.
Voilà. Ce qui compte, c'est le temps. Et c'est le temps. C'est le temps qui, en quelque sorte, pour répondre à ta question, qui va permettre de discriminer, de séparer. C'est la seule manière de voir qu'est-ce qui se passe à la fin du temps. Alors, il y en a beaucoup qui abandonnent ce cheminement de la nouvelle naissance pour rentrer dans une bergerie. C'est-à-dire se dire, ma conversion, c'est un progrès intellectuel, c'est un progrès moral, et je suis au sein d'une bergerie, d'une religion, d'une étiquette religieuse, idéologique, je suis catholique, ou je suis orthodoxe, ou je suis évangélique. Et ne voulant pas rentrer dans ce processus si difficile de la préparation à une mise à mort à la résurrection, il se contente d'une bergerie.
Ou peut-être ne voyant pas qu'il y a autre chose,
ne
comprenant pas qu'on puisse aller encore plus loin.
Et ça, on ne le sait pas, c'est quelque chose
D'accord.
qui appartient à chaque individu, à chaque un, qu'il n'est pas permis de juger. Mais à la fin d'une vie, effectivement, quelqu'un peut très bien être rester fidèle à sa religion et quand même être sincère au fond. Mais la gestation, la nouvelle naissance restera pour lui quand même quelque chose très lié à un progrès moral.
Une vie de prière, c'est pas un progrès moral, c'est autre chose. Quand on a une vie de prière, même si on est religieux.
Oui, mais encore une fois, dans certaines religions très méditatives et très contemplatives, comme le bouddhisme, au moins du petit véhicule, c'est-à-dire de se cloîtrer dans des monastères, il y a des gens qui méditent toute leur vie, c'est-à-dire qui cherchent une espèce de mystification intérieure qui leur permet de quitter l'individu qui, pour eux, est un pécheur pour retrouver la communion avec l'un, avec
D'accord,
la totalité.
Tu dis que la vie de prière n'est pas un critère suffisant pour montrer une conversion, une naissance, en tout cas une naissance à Dieu.
Non, il n'y a pas de critère, et en chercher un, ce serait dangereux. Maintenant, il y a des discernements possibles, et je pense que la balance du temps, l'analyse du temps, d'une vie, et ce qui s'est passé au cours de ce temps, permet quand même d'avoir certains repères pour discerner à peu près à qui on a affaire, sans pour autant être sûr et certain.
Peut-on se déconvertir ? Peut-on perdre sa conversion ? Ou perdre sa naissance, son enfantement ?
Si Dieu a décidé de donner sa nature à quelqu'un, à un homme, pour lui faire faire ce bond impossible d'entrer un jour dans la résurrection, d'avoir cette transfusion sanguine, de boire le sang du Christ et de manger sa chair.
Qu'est-ce que ça veut dire, boire le sang du Christ et manger sa chair ?
Ça veut dire recevoir une nature divine. Ça veut dire faire le bond, faire ce saut impossible qui va faire en sorte qu'un homme n'est plus un homme, mais n'est pas un barbare non plus et un animal. Il devient un fils de l'homme, c'est-à-dire un fils de Dieu, un être divin. Si Dieu a décidé et a fait ce choix, il faut lui demander s'il est capable de s'en repentir. Mais a priori, le texte biblique semble dire que non. Dieu ne se repent pas de ses choix. Ça veut dire que si on est témoin d'une « déconversion » entre guillemets de quelqu'un, c'est que la déconversion est juste la mise à jour que sa conversion était fausse, était justement seulement une conversion et pas une nouvelle naissance.
Oui, ou alors c'est peut-être l'étape dont tu as parlé juste avant, cette entrée dans une bergerie et cet arrêt dans une bergerie.
Oui, c'est cette mise entre parenthèses, ce désir de quitter la crête si difficile qui constitue à suivre le Christ dans la liberté et dans un rapport intérieur et individuel avec lui, et on préfère se donner à une bergerie et convertir, enfin, transformer toute la spiritualité dans un cheminement de progrès, de morale, au sein d'une idéologie, changer l'histoire du monde, changer la réalité, bon, ce qui n'est pas la perspective de Dieu, oui, ça peut être ça aussi. Mais fort souvent, je veux dire, Marx était un chrétien convaincu, par exemple. Dans sa jeunesse, il a écrit des... C'était un prosélyte, même. Et puis, il a complètement viré. Donc ça veut bien dire que son discours, qui était pourtant très dogmatique, très propre, très protestant dans sa jeunesse, un discours propre d'un point de vue de la théologie...
Et... Très sincère ?
Oui, on pourrait dire sincère. Eh bien, c'était faux. C'était peut-être quelqu'un qui cherchait un moyen de briller et qui pensait pouvoir briller au travers de la religion, faire carrière. Et on peut faire carrière. Des papes ont fait carrière. On ne peut pas savoir à qui on a affaire. Mais la mort, elle va révéler, effectivement, puisque la mort, c'est le moment de la naissance. Et lorsque la matrice s'ouvre, c'est-à-dire qu'on rentre dans la mort, s'il n'y avait pas d'embryon, il n'y a rien qui sortira.